Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Bonjour à tous, ici c'est Saléra Benarbia. Bienvenue dans ce nouvel épisode des podcasts du Dauphiné Libéré.
J'ai rien à vous dire.
Maintenant tu réponds. Qu'est-ce que tu foutais chez les juges ?
Voilà mes papiers, je les ai perdus.
Vous venez d'entendre la bande originale du film « Les filles de Grenoble » réalisé par Joël Lemoynier. Un film inspiré d'une histoire vraie qui a défrayé la chronique en 1980 à Grenoble. Pour la première fois en France, devant le tribunal correctionnel, cinq prostituées avaient osé défier leur proxénète malgré la peur et les menaces de mort. Elles dénonçaient les tortures et les contraintes de se prostituer à la chaîne. Elles avaient alors saisi leur unique chance, celle d'avoir l'écoute d'un homme, Paul Vesbuch, juge d'instruction, sensible au sort des jeunes femmes. Le juge mena l'enquête et, malgré les multiples menaces, fit échec au Mac. Ce fut la grande affaire de sa carrière. Retiré dans un village des Hautes-Alpes, l'ancien magistrat est aujourd'hui agriculteur qui veille sur ses chênes truffiers. Il a accepté de revenir sur l'affaire des filles de Grenoble, bien sûr, mais aussi sur les affaires politico-financières lorsqu'il était procureur à Lyon et enfin sur l'affaire de la petite Céline Jourdan dans les Hautes-Alpes.
Paul Vesbuch, je suis né le 3-12-1944 à Jonchère dans la Drôme, c'était pendant la guerre où mes parents se réfugiaient, voilà. Ancien magistrat, enfin magistrat retraité et en exercice comme agriculteur parce que j'ai toujours eu deux casquettes et je suis toujours inscrit à la MSA et je n'ai pas encore ma retraite d'agriculteur que je n'entends pas prendre de mon vivant, si j'ose dire.
Vous dites que vous êtes gaulliste, parce que De Gaulle est pour vous un symbole de liberté. Votre père étant juif a dû se cacher.
Oui, et il n'y a pas un seul juif en France et qui puisse se plaindre de cet homme aussi rugueux qu'était le général De Gaulle, mais qui a eu ce courage de s'opposer et de résister contre tout et contre tous jusqu'à la victoire. Et la victoire, c'est notre sauvetage, et c'est le redressement de la France, l'honneur de la France. C'est quelque chose de très important, l'honneur.
Qu'est-ce qu'ils vous ont dit de la période de 39-45?
Eh bien, ce qu'ils m'en ont dit, une chose admirable, vous voyez, il y a un tableau là, il s'appelle Marcel Legault, c'est lui qui avait choisi l'endroit où mes parents devaient se réfugier, il a prêté l'argent, c'est un juste, voilà, et c'est pour ça qu'il trône dans la maison.
En 1978, vous êtes nommé juge d'instruction à Grenoble. Qu'est-ce qui vous pousse à devenir juge, à devenir magistrat? Pourquoi ce métier?
Eh bien, parce qu'avant, j'étais au CNRS, historien du droit. J'ai passé ma thèse de l'histoire du droit. Je m'étais rendu compte que de passer mon temps à écrire des grimoires que personne n'allait lire, ça n'intéresse personne. Et j'ai pris la décision, donc j'ai passé le CAPA, donc j'étais avocat, et je me suis dit, tiens, pourquoi pas plutôt magistrat. Alors comme j'avais les titres qui me permettaient de rentrer directement dans la magistrature, puisque j'enseignais à la fac, hein, à la faculté de droit, hein, ben, je suis devenu comme ça magistrat, et puis par chance, eh bien, j'ai commencé mon premier poste à Grenoble comme juge d'instruction.
À ce moment-là, vous vous attaquez à... Donc vous avez à peu près, je crois, 35 ans. Vous attaquez à un dossier qui marquera votre carrière. Vous faites vaciller le milieu du grand banditisme italo-grenoblois et en défendant les prostituées qui vivaient un véritable calvaire. Comment avez-vous mené cette enquête et pourquoi vous avez commencé par là?
Eh bien, pour une raison toute simple, c'est que j'étais scientifique, j'étais historien du droit, et j'ai continué à travailler avec cette méthode-là, parce que j'étais pétri de cette technique d'historien, hein, qui est une méthode globale. On n'étudie pas les petites choses si on ne les rattache pas à une signification. Il faut une méthode globale. Donc, le proxénétisme, je ne connaissais pas. Les gendarmes ont vu que je m'y intéressais, et les policiers aussi, donc ils ont commencé à m'apporter des dossiers épars, eh bien, j'ai dit, je vois pas clair, je vois pas quel est le milieu, il faut voir quelle est la cohérence de ce monde, la sociologie de ce monde, et le voir dans son ensemble. Donc j'ai constitué ce qu'on appelle un corpus. J'ai d'abord commencé par travailler les sources, savoir tous les dossiers qui existaient, à comprendre les liens et essayer de bâtir la connaissance qui existait et de la rendre lisible. À partir de ce moment, quand j'ai commencé à comprendre les liens, les différents mondes qu'il y a dans le proxénétisme, j'ai eu la chance de rencontrer Nadia. Nadia était donc une jeune femme, quand je l'ai connue, elle avait 18 ans et elle était prostituée pour le compte d'un picaretta, d'une famille, ce qu'on appelle les italo-grenoblois. Enfin, alors ce que m'a dit Nadia, qui a accepté de parler, hein, c'était quelque chose d'inhabituel. Elle a essayé de me parler, mais en toute sincérité. C'est-à-dire que je lui ai dit, bon, d'accord, je veux bien vous croire, mais je vérifierai tout ce que vous m'avez dit, point par point. Et pour qu'elle sache, si elle m'avait menti, je serais déçu et que ça bloquerait mon travail. Donc je lui ai demandé d'être le plus précis possible et ne jamais inventer.
Comment elle est arrivée à vous, en fait? Comment vous avez fait pour la rencontrer?
C'est un gendarme qui me l'a amené. Il s'appelle le gendarme Allaire, à l'époque. Il avait vu, parce que j'avais traité une petite affaire de proxénétisme à Vizille. Il s'était aperçu que moi j'accrochais. Voilà. Bon. Les collègues n'accrochaient pas. Bon. Il y en avait un qui avait peur des voyous. Hein. Vraiment, hein, physiquement, il avait peur. Ben, un autre, il avait une famille nombreuse, moi aussi, mais pour lui, les prostituées, c'était de vilaines femmes. On n'approche pas, c'était des putes. Quoi. Voilà. Quand Nadia s'est mise à m'expliquer, parler. J'ai donc vu mon procureur, mon parc, qui était le procureur Favre, c'était un type formidable. Et je lui dis, mais voilà, tout ce qu'il m'a dit implique qu'on fasse des recherches qui relèvent et de la compétence de la gendarmerie, et de la sûreté locale, et de la police judiciaire. Il fallait mettre tout le monde au travail, mais par secteur bien, bien déterminé, qu'on établisse le travail. Et sans le procureur, j'aurais pas pu avancer. C'est parce que le parquet était d'accord. On travaillait ensemble. Ce qu'il y a, c'est que ma méthode était nouvelle, en ce sens que je cassais les cloisons qu'implique la saisine d'un juge d'instruction. Un juge d'instruction est saisi pour un fait. Il n'est pas saisi pour un ensemble de faits. Bon, alors en réalité, c'est ce qu'on a fait. J'ai été saisi de tous ces faits, mais j'ai découpé les dossiers. C'est-à-dire que j'avais mon corpus global et ensuite je traitais spécifiquement le milieu italo-grenoblois, les Maghrébins, les Corses et puis les autres. Et chaque service de police, chaque service d'enquête avait sa mission bien déterminée.
Voilà. Vous, à ce moment-là, quand vous avez ce dossier entre les mains, votre objectif, c'est quoi? C'est de faire quoi exactement?
C'est ce besoin de savoir. Et puis, j'étais scandalisé du sort que subissaient ces femmes. C'était pour moi insupportable. C'est pas que ça me fait sourire ce qui se passe aujourd'hui avec MeToo, mais à l'époque, eh bien, quand vous massacriez une femme, vous avez une prostituée, c'était 10 ans de prison. Grâce à cette affaire, avec Badinter, on a pu faire changer la législation, mais maintenant c'est perpétuité. Et la peine maximale qui a été prononcée, on ne pouvait pas dépasser 10 ans, alors que c'était des actes de barbarie, des actes de torture, mais que vous n'imaginez pas. C'est l'horreur absolue. Elle n'avait strictement aucune protection. Alors, de ce que j'ai vu, ce sont les meurtres, mais c'est surtout les supplices imposés aux filles. Par exemple, Nadia, abandonnée sur le lit de l'Isère, gelée, en plein hiver, bon, et qui a été recueillie par quelqu'un qui l'a vue, là, elle en serait morte. Elle m'avait expliqué qu'il la punissait en lui passant des morceaux de bois râpeux dans le vagin. Vous n'imaginez pas les cauchemars que ça a été pour ces femmes. C'est affreux.
Et vous, comment vous le viviez, à titre personnel et à titre humain?
C'était pas de la compassion. Ça suffit pas de souffrir avec, hein, d'avoir de l'empathie. Non, c'était de l'action. Et je me suis dit, si elles risquent leur vie, il faut absolument la vraie protection, celle de la société, pas celle des proxénètes. Hein. Voilà. Donc il fallait s'engager, mais c'est pas un travail seul, c'était l'ensemble, mon procureur, le parquet, les policiers, et tout le monde s'y est mis, les assistantes sociales, le préfet. Bon, ils ont pris conscience à cette époque de ce traitement inadmissible des prostituées.
Ils vous ont drogué ?
Ça a été ma première dose, marquée, monsieur le juge. Depuis, j'ai vu pire.
Pourquoi elles acceptent tout ça ? La peur, monsieur le juge. Elles crèvent de peur.
Non, pas les chantiers, Paolo.
Mais qu'est-ce que vous attendez ? Que Pratelli descende à gosse ?
Vous aviez été menacé. Vous n'aviez pas peur du milieu ?
Écoutez, non seulement j'ai été menacé, mais je me suis fait tirer dessus, hein, quand même. Bon. Ce qu'on appelle des attentats. Hein. Bon, j'ai perdu quasiment une oreille, enfin, l'audition d'une oreille. D'abord, ce que je veux dire, c'est que chaque fois que je m'en suis sorti, c'est grâce aux filles. Parce que c'est elles qui m'avertissaient. Elles m'ont dit, une, et c'était pas Nadia, une autre, attention, ne prenez pas votre 604, là, pour travailler, on vous a mis une bombe antipersonnelle. Dans le, et elle y était, on a pu la déminer. Tenez, une autre histoire. J'habitais la Villeneuve. Mais la Villeneuve, le grand immeuble Baladin, ça s'appelle. Voilà, ça me revient, les Baladins. Et je ne sais pas ce qui se passe. Je dois partir le matin avec les enfants. Alors, les enfants, on les amène à l'école, mais il y avait une protection policière. Hein, bon. Et puis, je reçois un appel téléphonique, hein, d'une dame qui me dit « Attention, ne descendez pas, vous êtes attendu en bas ». Il y a une équipe qui vous attend avec des pistolets, des fusils à pompe, hein, canonciers. Vous êtes attendu, on va vous tuer. Alors, j'ai averti la police, à ceux qui devaient venir me chercher, et puis ils coincent cette équipe là où ça m'était indiqué. La personne qui m'a téléphoné, c'était Madame Milési, c'était la femme du patron du grand banditisme sur Grenoble. Pourquoi avait-elle agi comme ça ? Parce qu'on habitait la même cité. Je n'étais pas riche, hein. J'habitais comme tout le monde. Hein. Voilà. Et elle savait que je ne trichais pas. Je crois qu'elle avait eu cette intuition qu'il fallait que je ne sois pas abattu. Mais les gars, on les a arrêtés. Ils ont dit qu'ils préparaient un hold-up, ils ont été condamnés pour ça, mais j'étais là en bas pour me flinguer.
Comment vous expliquez qu'il n'y ait pas eu d'enquête avant vous ?
Si, il y a eu des enquêtes. Il y avait des policiers qui en voulaient. Hein. Mais il y avait des ribous aussi. Bon, les ribous l'emportaient sur les bons. Non, il y en avait d'excellents. Là. Je pense à Jean-Michel Goudin. Enfin, toute l'équipe qui était avec moi. Ils en voulaient, ils étaient contents pour avoir le dessus par rapport aux voyous. Le problème des voyous, c'est que c'était les indicateurs. Oui, il y avait des ripoux. Alors, eux, ben, ils faisaient table commune avec les informateurs, quoi, les indiques. Bon, mais tout ça, on y a mis fin.
Oui. Dans le milieu des magistrats, il y avait aussi peut-être que des juges n'avaient pas osé s'attaquer au dossier parce qu'ils avaient peur.
Vous parlez de M. Bellamy, le juge d'instance, là. Oh, celui-là. C'est une histoire vraie, ça. Alors, il était le grand ami de Zacharia, la pizzeria du vieux four, je crois, à Saint-Martin-le-Vinou, où Nadia se prostituait, où elle était mise à disposition de ces messieurs. Alors, il était grand ami de ce Zacharia. Zacharia, il était considéré un peu comme le parrain. C'est une grande gueule. Bon, mais très important dans le milieu, il était dans le BTP, je crois, où il avait une pizzeria. Enfin, et donc, Bellamy était le grand ami. Et il s'intéressait un peu trop près de ce que je faisais. Alors, il venait me voir et il me dit « Mais Zacharia, c'est mon ami, non, vous vous trompez, etc. Non, il faut arrêter. » Il commençait à me casser les pieds. Alors, j'ai vu mon procureur, là, et Pierre Favre, et je lui dis « Écoutez, Bellamy, je ne peux le supporter plus. Hein, il va venir encore me rendre visite. J'aimerais que vous soyez là quand il va arriver dans mon bureau. » On convient que lorsqu'il arrive, je l'appelle. Ce monsieur me dit « Bon, ben, montre-moi un petit peu les preuves que vous avez, etc. Bon. » Mais lui, il était plus gradé que moi. Je les ai sur ma table. Il se précipite sur les feuilles de comté. Il commence à les déchirer. J'appelle le collègue, là, le procureur, qui arrive. Toutes les portes étaient bloquées. Là, on a pris un flagrant délit d'essayer de détruire les preuves. Vous allez me dire « Mais pourquoi on n'a rien fait ?» Ben, j'ai rien fait. On n'a rien fait pour une raison simple, c'est qu'à l'époque, il y avait ce qu'on appelle le privilège de juridiction. Un privilège de juridiction, ça voulait dire que un magistrat qui devait être pris en flagrant délit de vol ne peut pas être jugé sur place. C'est-à-dire que j'aurais été dessaisi. Et dessaisi, ben, il n'y avait plus d'affaires. Voilà. Alors c'est pour ça qu'il a échappé. Il a échappé à la sanction. Là, il méritait la prison. Hein. C'était grave. Hein. Et le procureur, il a perdu patience. Il lui a mis son poing dans la gueule.
Aujourd'hui, avec le temps, vous avez du recul sur cette affaire. Quel regard vous portez sur ce que vous avez fait, sur ce gros dossier ?
Ben, je me dis que j'étais complètement cinglé. Je pense que c'est parce que j'ignorais tout du monde judiciaire, parce que j'ai pas passé le vrai concours, moi. J'ai pas été formaté. J'étais un historien du droit et un esprit, je pense, indépendant et libre et résistant, comme je vous parlais de, pour moi, le gaullisme, c'est ça. Je n'ai pas accepté ce qui est inacceptable. Et puis, je ne sais pas pourquoi je l'ai fait, parce que c'était le bon moment. J'étais l'homme idoine, en quelque sorte. Les circonstances l'ont permis. Et bah, je suis content pour les filles. Et puis les proxos, ils en ont pris. Combien j'en ai fait condamner, je ne sais plus. Une centaine, je crois.
Vous n'aviez pas gardé de contact avec, justement, les prostituées de Grenoble ?
Si, avec Nadia, toujours, oui. Non, évidemment. C'est en quelque sorte un serment que je m'étais fait de jamais l'abandonner. Parce qu'une fois passées les grandes périodes médiatiques, eh ben, elle s'est retrouvée confrontée aux difficultés de l'existence. Bon, ben, on se suit. Mais vous savez, elle, c'est un véritable miracle. Il y a quelque chose d'étonnant. Il faut savoir qu'elle a un cancer généralisé mais depuis bientôt 15 ans et qu'elle est toujours en vie. Et que les médecins ne comprennent pas ce qui se passe. Oui, elle mérite. Elle est, alors, du point de vue humain, elle est plus intéressante que moi.
Vous étiez procureur de Digne. Vous avez dû gérer l'affaire du viol et du meurtre de la petite Céline Jourdan. Est-ce que la décision d'acquitter Richard Roman a été vécue par vous comme un soulagement ou comme un échec ?
Rien de tout ça. La machine judiciaire a fonctionné, mais il y avait en parallèle une machine d'influence. Il y avait tout un réseau parallèle qui a permis que, par exemple, le juge d'instruction qui, sur la fin, voulait faire son non-lieu, etc. Vous savez où il a fini ? Il a fini en prison, ce magistrat. Et il y a eu, par exemple, dans ce dossier, un défaut qui ont été présentés. Alors quelqu'un est venu dire, voilà la photo avec le soleil, on peut vous dire que c'est faux, ça ne s'est pas passé comme ça. Après analyse, ben, c'était une fausse... un faux élément. Il y avait un véritable traquenard, l'avocat général qui a soutenu l'accusation à Grenoble, parce que l'affaire a été dépaysée, et qui est venu dire à la population, vous allez voir ce que vous allez voir, et puis qui est tourné casaque pendant le procès, qui s'est mis à dire l'inverse de ce qu'il avait annoncé à la population. Voilà.
D'ailleurs... Vous, à l'époque, votre position, c'était quoi ?
Moi, ma position, c'est ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu, ce que j'ai constaté. Voilà, c'est dans la procédure, c'est que Roman m'avait expliqué comment il avait écrasé la tête de l'enfant, hein, voilà, avec une caméra et avec audio, un film, comme c'était la première fois qu'on le faisait, voilà. Seulement, la bande là où les aveux étaient passés était complet, hein, bon, pas de problème. La difficulté, c'est que la juge d'instruction, elle... a attendu 4 ans avant de sortir la bande. Et la bande sonore, elle était détériorée. On ne pouvait plus entendre ses aveux. Bon, c'est gênant, ça.
Vous étiez persuadé que c'était lui le meurtrier ?
Moi, je n'ai pas à être persuadé. Les éléments, ils sont ou ils ne sont pas. Vous avez des charges. Un point, c'est tout. Bon, seulement, quand une affaire elle est salopée, ça démarre mal. J'avais fait analyser les deux écouvillons de sperme recueillis dans l'anus et dans le vagin de l'enfant. Seul l'écouvillon portant le nom de Gentil a été adressé au laboratoire, mais pas l'autre. L'autre, il est resté dans le frigidaire ouvert pendant tout l'été, de sorte qu'on n'a pas pu analyser le deuxième prélèvement. Et alors, ce qui est étonnant, c'est que il y avait tellement d'éléments me paraissaient très clairs. Hein. J'avais fait cette reconstitution. Je fais une reconstitution, puis je reconnaissais les faits. Hein. Roman, bon, la justice, elle est ce qu'elle est. Et puis après, on s'est mis à tirer sur les uns, sur les autres, puis à me tirer dessus. Mais les choses sont ce qu'elles sont. Celui qui a tué l'enfant, je pense, n'a pas été condamné. On en a condamné un autre pour ça. Ça, c'est mon point de vue. Et de ce que je connais de l'affaire.
Quelles sont ou quelle est la plus grosse erreur pour vous ?
La plus grosse erreur ? Des erreurs, j'en ai tellement commis, mais je distingue erreur et faute. C'est pas la même chose. La faute est intentionnelle, bon, l'erreur ne l'est pas. C'est une erreur de jugement, mais la faute... J'ai essayé d'obéir à ma conscience et d'éviter d'accomplir des actes, de profiter de ma position pour faire souffrir quelqu'un. Je pense être le contraire d'un pervers. Je ne jouis pas du mal qu'on peut faire. Le juge doit être à la recherche de son humanité. Mais ce n'est pas parce que, je voyais aux assises, ce n'est pas parce que les faits étaient horribles que pour autant il n'était pas nécessaire d'expliquer la personnalité de l'auteur. Il commet des choses monstrueuses, mais ce n'est pas nécessairement un monstre. Il faut remplacer le passionnel par l'empathie. Pas du tout la même chose. Et toujours garder son discernement. Le discernement, vous ne pouvez en avoir que si vous prenez une distance avec ce que vous faites. Vous ne pouvez pas vous impliquer absolument. Ce n'est pas une affaire personnelle. Ça ne peut pas être une affaire personnelle. Et il est très important, justement, pour cela, qu'on change de fonction. Parce que la monoculture, c'est en quelque sorte la voie directe à l'abus de pouvoir.
Pour revenir, vous n'avez pas répondu à ma question sur l'erreur. Est-ce que vous avez en tête une erreur que vous regrettez ou vous dites « là quand même, j'aurais pas dû ».
Alors, je me suis rendu compte, avec le recul, que j'avais le mandat de dépôt trop facile. Mais à l'époque, c'était différent. Alors, c'était surtout en matière économique et financière. Je n'avais pas d'hésitation en matière de banditisme, les affaires de viol, aucune hésitation. Non, c'était pour les dossiers économiques et financiers. J'avais tendance à faire preuve d'une sévérité qui n'était pas justifiée parce que les voyous en col blanc ne menacent pas la société. La sécurité, non, mais la sécurité physique, voilà. Tandis qu'un truand, il peut sortir et puis aller abattre un témoin, etc. C'est dans ce domaine. Alors, je ne faisais pas bien la distinction, moi, à l'époque. Pour moi, c'était tout pareil. Oui, c'était l'égalité de traitement. Mais les choses sont plus délicates.
Quel regard aujourd'hui vous portez sur la justice, la manière dont elle est exercée ?
D'une manière générale, le grand reproche, les affaires sont trop longues. Il faut une affaire pour qu'elle soit jugée, il faut 3-4 ans. C'est scandaleux. Et alors, on va avoir la sortie de ces affaires-là, enfin, elles s'épuisent, parce que le principal prévenu décède. Extinction de l'action publique. Voilà, on en arrive là maintenant. Et alors les avocats le savent, et donc ils font durer jusqu'à ce que mort d'homme s'en suive. Le fait qu'il n'y ait pas de délai raisonnable, la notion de délai raisonnable pour juger une affaire, c'est le plus grave problème de la justice en France. Pour moi, actuellement, je vois que c'est abominable. Et au pénal, on juge les petites affaires tout de suite. Et les vraies affaires, et les affaires économiques et financières, eh bien, il a fallu qu'il y ait un parquet bis, qui s'appelle Anticorps, et qui intervienne pour pouvoir poursuivre les affaires. Voilà les deux failles du système.
Est-ce que vous avez résisté à beaucoup de pression dans votre carrière?
Vous savez bien que j'ai fait des ennuis à pas mal de monde, hein, à Noir, Carillon, puis tant d'autres, quoi. Hein. Et je suis à Lyon, là, et le procureur général, je ne vous dis pas lequel, parce qu'il est plus tard, il me fait venir, et il me dit, il faudrait que vous requériez un non-lieu dans une affaire où il y avait un sénateur ami de Dierfort. Bon, c'est des histoires un petit peu anciennes. Voilà, bon, je regarde le dossier, hein, je fais mon réquisitoire, je dis, non, il faut le renvoyer. Il dit, écoutez, si on vous donne la Légion d'honneur, j'ai pas la Légion d'honneur.
C'est arrivé combien de fois, ce genre de... Ça, beaucoup de fois?
À Lyon, c'était, j'allais dire, quasi quotidien. La justice est instrumentalisée, c'est un instrument du pouvoir. Et là, on décide Urba, on décide... on poursuit Carillon, on ne poursuit pas Noir, ça se passe comme ça. C'est la politique à l'époque. Et ça non plus, j'ai pas accepté. Quoi. J'ai désobéi, j'ai poursuivi Noir. Et il n'aurait jamais été poursuivi si je n'avais pas désobéi. Faut comprendre. En voilà un qu'on est arrivé à rattraper de justesse, hein, à remettre dans le circuit pénal, parce qu'il le méritait. Je me suis mis à travailler sur son cas. On m'a dit non, non. Je lui ai dit comment, non. Alors, comme j'avais compris que l'histoire Urba, si ça vous rappelle quelque chose, bon, et Urba, eh bien, on avait en réalité le financement de la campagne électorale de Noir en parallèle, hein, par Urba, alors qu'il était en train, comme on dit, de trahir, il passait chez les ennemis, anciens ennemis politiques. C'était leur magouille, mais ce qui est important, c'est que Botton, Noir, c'était un seul et même dossier, puis j'avais récupéré d'une manière étonnante un dossier de redressement fiscal que l'ancien ministre des Finances tenait sous le coude pour faire chanter Michel Noir. Donc ce dossier m'avait été remis avec les preuves, alors là, des abus, des détournements de fonds, donc des recettes d'abus de biens sociaux, bon, un gros dossier. Je vais voir mon procureur à l'époque, Latour, on était en fac ensemble. Hein. Il me faut maintenant, on va faire un réquisitoire supplétif près du juge d'instruction. On avait saisi le courroie à l'époque. Il nous faut saisir le juge d'instruction de ces faits-là concernant Normandie. Il n'en est pas question. Voilà. Comment il n'en est pas question? Ben, j'ai pris ma plus belle plume, j'ai fait un réquisitoire introductif et hop, je me suis retrouvé à Amiens. Voilà. J'ai voulu les affronter et puis j'ai perdu. Hein. J'ai pas complètement remporté la bataille. Je les ai suffisamment emmerdés pour que je me dise, finalement, comme vous le disiez, j'ai eu une belle carrière.
Vous dites quoi? C'est un des plus beaux métiers du monde?
Oui, parce que pour faire ce métier, contrairement à ce qu'on croit, il faut aimer les gens. Il faut les aimer très profondément. Et quand on aime les gens, eh bien, on a envie qu'il ne leur arrive pas de mal.
Mais c'est un métier particulier quand même vis-à-vis de la société. On n'approche pas trop un magistrat comme ça. Ou en tout cas, le magistrat n'approche pas le reste de la société comme ça.
Le magistrat doit être accueillant, mais pas se laisser approcher. C'est pas la même chose. Il doit être bienveillant. Mais pas de corruption, hein, c'est-à-dire pas de tentative d'affaiblissement. Hein. Quand on est procureur, on n'a pas d'amis. J'ai pas d'amis, hein, en matière pénale, on couvre personne. Voilà. Pourquoi on ne peut pas être inséré dans un réseau? Pourquoi les hommes, les juges ne doivent pas faire de politique?
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary. Not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.